je suis persuadé que Dieu veut nous amener dans une dimension beaucoup plus puissante au niveau de la prière. Je ne suis pas satisfait des résultats. Je veux voir immensément plus. Je veux voir une puissante prière s'élever de cette église et secouer les fondations de cette nation. Amen. Parce que ça, c'est important, frères et sœurs. Que nous puissions découvrir davantage la puissance de la prière. La prière qui change les choses, les circonstances. La prière qui amène le résultat désiré. La prière fervente.
Hein.
Pas la prière semblant. Mais la prière où on entre vraiment dans une dimension. Où on entre ensemble dans la puissance de Dieu. Et on présente des cas à Dieu. Et les uns après les autres.
Hein.
Nous voyons sa puissance agir.
Hein.
C'est ce genre de prière dans lesquelles Dieu veut nous amener. Et il veut nous amener collectivement dans la puissance de la prière. C'est pour ça que c'est très important que nous puissions comprendre des principes et pratiquer ces principes. Nous voulons voir le ciel descendre sur la terre. Moi, je lisais cet après-midi un témoignage d'un homme de Dieu qui a vécu il y a un siècle. Cet homme a été puissamment utilisé par Dieu. À la fin de son ministère, c'était pas tout à fait ça, mais pendant l'apogée de son ministère, c'était vraiment extraordinaire. Cet homme s'appelait John Alexander Dowie. Et cet homme, un jour, est venu au sud des États-Unis. Il habitait aux États-Unis. Il avait un puissant ministère qui a commencé dans des persécutions épouvantables, des mensonges de la part de gens, des journaux, du clergé, de tout ce que vous voulez. Et ce John Alexander Dowie a persévéré pendant une année. Il s'est fait arrêter alors qu'il prêchait plus de 100 fois. On arrivait, il était en train de prêcher. Et la police débarquait pour l'arrêter parce que soi-disant il pratiquait la médecine sans avoir de diplôme. Parce qu'il priait pour les malades. Et alors on n'arrêtait pas de faire des ennuis. Les gens racontaient des histoires dans les journaux épouvantables. Fausses, des mensonges sur mensonges sur mensonges. Et cet homme a persévéré et il a vu la ville de
Chicago
être complètement transformée par la puissance de la prière. Parce que cet homme a persévéré, qu'il a voulu changer les circonstances de son temps. Et cet homme était puissamment utilisé par Dieu. Il connaissait la puissance de la prière. À tel point que, au bout d'un moment, à Chicago, partout, on savait que Jésus était le sauveur, et que Jésus guérissait. Et cet homme vraiment a révolutionné cette ville. Et vers la fin de son ministère, il est descendu donc une fois au sud des États-Unis. Et j'aime trop, j'ai sa biographie donc à la maison, donc son histoire. Et le début de sa biographie, ça commence d'une façon très simple, où il est dit que les gens attendaient de voir si John Alexander Dowie allait prier pour la pluie dans l'endroit où il était, alors que depuis 8 mois il y avait une grande sécheresse. Depuis 8 mois il y avait une grande sécheresse dans cet endroit. Et les gens donc qu'il avait invités, ils voulaient savoir si Dowie allait oser prier pour cela. Ils attendaient une chose. Ils se disaient, si Dowie prie pour ça, c'est que finalement, s'il ne pleut pas, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment un prophète de Dieu. S'il n'ose pas prier, ça veut dire qu'il a peur de prier pour ça. Et cet homme de Dieu s'est agenouillé devant le pupitre et il a commencé à plaider Dieu. Et il a dit, Seigneur, tu connais cette situation. Et Seigneur, je te demande que la pluie descende. Et il a prié une prière toute simple. Et à un moment, il s'est arrêté. Et il a dit, dépêchez-vous. Retournez dans vos maisons. J'entends la pluie qui arrive. Les gens sont sortis en courant. Mais l'histoire nous dit qu'il était trop tard, ils ont eu une douche gratuite. Moi je vous dis une chose. J'ai vraiment envie de voir la puissance de Dieu. Vraiment j'ai envie. J'ai pas envie de voir, bon, quelques personnes touchées, bon c'est bien, c'est bon. Gloire à Dieu. Oui, il y a des gens qui sont touchés dans la puissance de Dieu. On prie pour eux, bon, ils se passent des choses. C'est vrai. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont vraiment touchés par le Seigneur. Leur vie change. Mais c'est trop lent. C'est trop lent, frères et sœurs. C'est horriblement trop lent. Moi, ce que je vois, c'est que ça aille très vite. Que d'un seul coup, on soit par la puissance de Dieu et qu'on se retrouve dans un tourbillon divin de la puissance de Dieu à être embarqué dans cette vision divine du réveil. Moi c'est ce que je veux voir. Je soupire après cela. Réunion après réunion, jour après jour, semaine après semaine. Je dis Seigneur, j'ai vraiment envie de voir ces choses. Seigneur, j'ai vraiment envie de voir cette puissance. Quand on voit Jésus, Jésus était imbattable. Il se retrouve devant un mort. Devinez, le mort ressuscite. Il se retrouve devant un aveugle. L'aveugle voit. Il se retrouve devant un boiteux. Le boiteux marche. Moi je veux vraiment voir ça. Ah, je soupire, je vous assure. Vraiment, ça me fait mal à l'intérieur. Je me dis, Seigneur, vraiment, je veux voir ça. Je veux qu'on soit emmené dans ce tourbillon dont on ne pourra plus sortir. Dont on ne pourra plus sortir. On est embarqué comme ça. Et tous ceux qui commencent à s'approcher, ils sont aspirés. Par la puissance de Dieu. Touchés, transformés. De partout.
Oh, hallelujah.
Ah, vraiment, je soupire après ça. Et je sais qu'une des clés, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Et cette chair nous dérange. Qu'est-ce qui nous dérange, la chair? Quand on est dans l'esprit, c'est les temps les plus merveilleux qu'on peut avoir. Mais la chair est là. Et la chair, elle essaie toujours de dire non. Tu prieras un peu plus tard. Et tu commences à te mettre dans la prière. Et tu dis, ah, j'irai bien boire un Fanta. Et tu es en train de penser que dans une heure, il faut que tu partes. Et que dans une demi-heure, t'as ça à faire. Cette chair. Cette chair, elle nous dérange, frères et sœurs. Cette chair, elle nous dérange. Jésus nous donne plein de choses là-dessus. Quand on voit la vie de Jésus, Reprenons Matthieu 6. Vous savez,
Dowi,
c'était un homme puissant.
Il
défiait les athées. On l'avait traité de charlatan. Et un jour, il a convoqué des gens de la médecine, des médecins. Et il a dit, amenez-moi des malades incurables. Il y avait tous ces médecins devant lui. Il y avait plusieurs malades devant lui, incurables,
des trucs
qui étaient vraiment incurables. Il y avait un type qui avait une tumeur ici sur le visage.
Dowi
devant tous ces gens-là.
Il
fait au nom de Jésus.
Il
prend la tumeur comme ça.
Et
il l'arrache au nom de Jésus. Le type. Et regarde, il touche la peau du gars, de celui qui était malade, et sa peau était parfaite, instantanément. C'est des choses comme ça qu'on veut voir. Frères et sœurs, je soupire. Je soupire après ça. Moi, je veux voir cela.
Mais
la prière, c'est la clé. Nyongisho a écrit un livre qui s'appelle La prière, la clé du réveil. Il
n'y
a pas de secret. Il faut que nous soyons enveloppés dans une ambiance de prière, dans un esprit de prière, dans un esprit d'intercession, des temps où on passera des heures à dire à Dieu, on veut voir ce réveil, on veut que ça nous prenne de partout. On n'endormira plus la nuit s'il le faut. Pas parce que tu te forceras. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu auras ce fardeau. Seigneur, je veux voir. J'ai ce désir. Je veux voir. Ce réveil descendre. Tellement tu auras à cœur les pécheurs perdus. Tellement tu verras des gens qui sont dans des conditions terribles,
hein.
Des maladies complètement incurables, des membres qui en partie manqueront ou totalement, et où tu seras devant ton Seigneur avec ce fardeau, ces pleurs dans ton cœur,
hein,
qui sont là,
Seigneur,
pas arrêter d'être dans la prière tant que je n'ai pas la réponse. Ah, que ce jour vienne. Que ce jour arrive, frères et sœurs. Que ce jour arrive. Moi, j'ai soif de ça. Vraiment, j'ai soif de ça. Jésus dit dans Matthieu 6. C'est une image qui va nous donner. Au verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je veux utiliser ce verset pour simplement vous expliquer un certain nombre de principes ici. L'idée d'entrer dans ta maison, ça nous donne une image. Ça, c'est entrer en nous-mêmes. C'est-à-dire faire abstraction de tout ce qui peut nous distraire. Vraiment, quand nous sommes distraits, nous sommes dans la chair. Quand nous sommes en train de penser à autre chose, nous sommes dans la chair. C'est ça la chair. Il y a des gens qui disent, c'est quoi la chair, pasteur? La chair, c'est tout ce qui t'empêche dans ton âme de laisser Dieu passer. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu, les sentiments de Dieu, les œuvres de Dieu, la présence de Dieu, tout ce qui est de Dieu et qui empêche de passer, c'est ta chair.
chair.
Quand tu n'arrives pas à te mettre dans l'esprit, c'est-à-dire à te concentrer sur Dieu, c'est ta chair qui fait. Et des fois, tu as vraiment envie que cette chair.
Parce que c'est
elle qui t'empêche.
C'est
elle qui m'empêche. De pouvoir être dans l'esprit. De pouvoir entendre la voix de Dieu. De pouvoir être dirigé par le Seigneur. De pouvoir faire les œuvres de Dieu. De pouvoir marcher dans la puissance de Dieu. Jésus lui-même a eu affaire à sa chair. Mais l'avantage qu'il avait, c'est que son âme n'avait jamais péché. Mais à Gethsémané, regardons ensemble dans Matthieu 26, Jésus va être là dans le jardin et va passer un moment dur avec sa chair. Et cette chair, tant que nous serons sur cette terre, nous l'aurons. Nous aurons cette chair tant que nous sommes sur cette terre. Mais il va falloir apprendre à la soumettre davantage,
frères.
Plus nous la soumettons, et plus nous connaissons les principes de Dieu, et plus la puissance de Dieu pourra passer. Plus la chair est importante, plus elle se manifeste, moins la puissance de Dieu peut passer. Alors de temps en temps, la puissance de Dieu peut passer. Parce que notre chair se calme. Mais si nous vivons trop dans la chair, alors qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui nous domine. Et la puissance de Dieu ne passe pas. Et je ne parle pas du péché dans lequel nous pouvons tomber. Là, je parle déjà des choses plus spirituelles. Là-dessus, verset 36, Matthieu 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu de Gethsémané et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Alors il dit, mon âme, pas mon esprit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux.
Baravuga kuva ku 36 ngo maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa Getsemane abwira abigishwa biwe ati ba muricaye hano mbanze nje hajya gusenga ajana Petero na bene Zebedayo bombi atangura kubabara no guhagarika umutima cyane arababwira ati umutima wanje bavuze ngo umutima wanje ariko numushaha wanje uri nakabonge kagomba kunyica bamuragumyaha mube mubane maso nanje yunguruza imbere gatonya arubamara senga ati data sangwa vyo shoboka kikombe kindenga.
Jésus était au moment le plus difficile de sa vie sur la terre. Il savait qu'il devait passer par la croix. La première phase de sa mission avait été accomplie parfaitement. Jésus avait marché sans péché. Il avait prêché, enseigné le royaume de Dieu. Il avait guéri les malades, fait des miracles, démontré la puissance de l'amour de Dieu, délivré les démoniaques. Il avait réussi sa mission à
100%.
Tout a été parfait.
Ce que
Christ a fait, toutes ses œuvres qu'il a faites,
quand
il a démarré son ministère à 30 ans jusqu'à 33 ans et demi, tout ce que Jésus a fait, c'était 20 sur 20. Sans faute absolue. Jésus a parfaitement réussi sa mission. Et là, Il avait la deuxième partie de sa mission.
La
deuxième phase de sa mission, c'était l'œuvre de rachat, la rédemption. Mourir pour l'humanité. Dieu le Fils dans la chair, cloué sur cette croix pour tes péchés, pour mes péchés. Il sera fait malédiction sur cette croix. Mais il savait qu'il devait passer par des souffrances immenses. Par des souffrances immenses. Et là, Jésus s'est fait arrêter. Il le savait qu'il était juste avant l'arrestation. Il savait qu'il allait être donné comme sacrifice. Il savait tout ça. Il savait que c'était le plan du Père. Tous ceux qui ont essayé de le toucher avant ce temps-là n'ont pas pu le toucher parce que miraculeusement Christ était protégé. Soit le Saint-Esprit lui disait: non, ne va pas là. Et il n'y allait pas. Et plus tard, quand le Saint-Esprit lui ouvrait la route, il disait: c'est bon, tu peux y aller. Alors à ce moment-là, il peut y aller. Il y a d'autres moments où on a voulu le jeter d'une montagne, mais la puissance de Dieu l'a protégé. Et il est passé entre des personnes qui voulaient du mal à chaque fois. Mais là, Jésus savait dans le jardin de Gethsémané qu'il devait passer par la croix du calvaire. Il savait quelle était la volonté du Père. Il va avoir une immense bataille dans son cœur. Une immense bataille. Sa chair va commencer à dire non. Sa chair va commencer à dire non. Mon âme est triste jusqu'à la mort, dit-il. Et puis la Bible nous dit au verset 39, puis il s'avança un peu et se jeta la face contre terre. C'est la seule fois où on voit Jésus se jeter littéralement pour prier. Il pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas toutefois ce que je veux, mais comme tu veux. Verset 40, il revient vers les disciples qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre: n'avez-vous pas donc été capable de veiller une heure avec moi? Jésus était dans un terrible combat de soumission à la volonté de son Père. Et les disciples qui auraient dû peut-être le soutenir quelque part, eux, ils se sont endormis. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que les disciples se sont endormis. Et souvent, les gens ont vu ça dans le naturel. Mais je vais vous dire une chose. Ça, c'était pas entre guillemets naturel. Vous savez, quand vous êtes là en train de prier, si vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas dans l'esprit, soit ils s'en vont, soit ils pensent à autre chose, soit ils s'endorment parce qu'il y a du combat spirituel, parce qu'ils ressentent des choses et ils n'y résistent pas. Et souvent ce sont des oppressions spirituelles qui essayent justement de nous empêcher d'entrer dans l'esprit. Parfois il y a de terribles combats pour vous empêcher d'entrer. Il y a votre chair et il y a l'ennemi aussi qui des fois essaie de vous empêcher d'entrer dans l'esprit. Et je suis persuadé qu'ici c'était le cas et ils ont cédé à cela. Verset 41: veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Frères
et sœurs, il va falloir faire des progrès dans ce domaine-là. des progrès à soumettre notre chair, à crucifier notre chair, c'est-à-dire à mettre de côté tout ce qui peut nous empêcher d'entrer dans l'esprit. Et ça, c'est un travail qui est particulièrement difficile. La chair, c'est toujours difficile à crucifier, parce qu'elle est toujours très vivante en nous. Plus nous sommes bébés spirituels, plus notre chair est forte. Plus cette chair a tendance à constamment combattre pour qu'on n'entre pas dans l'esprit, à nous garder dans le naturel. Et si tu es dans le naturel, tu ne peux pas avoir une puissante prière dirigée par le Saint-Esprit. Vous avez remarqué que si vous êtes bon converti depuis quelques années, bon, il y a des moments où vous êtes là, par exemple vous venez à l'église, vous êtes à la maison, tu commences à prier, et d'un seul coup ton cœur s'ouvre, ton esprit s'ouvre, et tu entres facilement dans la présence de Dieu. Mais il y a des gens, c'est rare que ça leur arrive, c'est très rare. Des fois ils viennent à l'église et ça se produit vraiment. Les gens ont dit, oh, c'était formidable, c'était extraordinaire. Et puis pendant 3 mois ça leur paraît sec. Ah, c'était bien il y a 3 mois, c'était vraiment bien. Vraiment, ce jour-là, j'ai pu vraiment adorer mon Dieu d'une façon merveilleuse. Mais Dieu est-il parti en vacances entre temps? Est-ce qu'il est tombé malade? Il avait la fièvre entre temps pendant 3 mois? Non. Est-ce qu'il t'avait oublié pendant 3 mois? C'est notre chair. C'est la chair qui est là. Et qui nous empêche d'ouvrir nos cœurs. Parce qu'on écoute cette chair. On marche selon cette chair. On marche dans le naturel. Et on reste dans le naturel. Et on parle des choses naturelles. Et on cherche les choses naturelles. Et on pense les choses naturelles. Et puis à un moment, on dit, ah, il faut que je prie. Et très souvent, c'est la difficulté. On rentre tellement dans le naturel, qu'ouvrir notre cœur, notre esprit devient quelque chose de très difficile, sauf de temps en temps. On ne sait pas pourquoi. D'un seul coup, notre esprit est bien ouvert. On rentre dans la présence de Dieu. Et c'est formidable. Mais bon, à la prochaine, Seigneur. Est-ce que vous croyez que Dieu veut ça? Non. Il veut qu'on se développe. Il veut que notre chair diminue. Que notre esprit prenne de plus en plus la place. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair combat. Il dit non. Verset 42, il s'éloigna une deuxième fois et pria, si mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. Et il les trouva encore endormis car leurs yeux s'étaient appesantis.
Il
y a des expériences qu'on peut faire avec Dieu. Tu commences à connaître les choses de l'esprit.
Et
des fois c'est 5-10 minutes parce que tu es encore petit dans l'esprit. Tu passes vraiment un temps dans la prière. Tu sens que le Saint-Esprit te couvre. te couvre avec puissance.
Mais
bon, au bout d'un moment, il s'en va.
Mais
persévère. Parce que si tu continues à ouvrir ton cœur, alors ces 10 minutes se transformeront en
15 minutes.
Ça pourrait être une demi-heure, ça pourrait être une heure, ça pourrait
être.
Nous avons besoin de la présence de Dieu qui nous couvre.
Et
quand tu es dans la prière à ce moment-là,
tu es
là, tu pries sous la direction du Saint-Esprit. Tu sens que tu dois aller dans telle direction. Tu demandes des choses à Dieu. Et tu sens que ça perce d'une façon exceptionnelle. Bien sûr, la foi a son rôle à jouer. Mais la prière inspirée, là où Dieu te dirige, où tu
portes,
c'est une dimension dans laquelle Dieu veut nous amener. Dieu veut nous amener parce qu'il y a une puissance dans cette prière. Il y a une onction dans cette prière. Et tu es là, tu pries, et tu es porté par l'Esprit. Et là, Dieu met des sujets de prière dans ton cœur qui arrivent parce qu'il trouve un canal disponible qui se met dans l'esprit et qui est soumis à l'esprit et qui laisse sa chair de côté, Il les quitta, s'éloigna de nouveau, verset 44, et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revient vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. Le combat était terminé.
Et
Jésus avait soumis parfaitement sa chair. Sa chair disait: non, je ne veux pas la croix. La chair de Jésus ne voulait pas la croix. Mais son esprit, bien sûr, disait: oui, c'est la volonté du Père. C'est pour ça que tu es venu sur cette terre. Mais sa chair disait: ah, un peu plus tard, un peu plus tard. Et Jésus a eu ce combat entre eux. Son âme et son esprit. Et c'est un combat qui existe, frères et
sœurs.
Il y a des chrétiens, pour eux, ils vivent leur vie chrétienne au gré du vent, comme on dit si bien. Ils sont trimballés par toutes les circonstances. Petite vie chrétienne, bien endormie. Mais tu
ne
verras jamais un réveil dans ta vie. Si tu
veux
une petite vie chrétienne endormie, il va y avoir des moments de combat en toi-même, entre ta chair et ton esprit. Paul nous l'explique très bien dans Romains 8. Il est dit au verset 1, Romains 8. Il est dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ici, Paul explique un principe simple. Il dit: en toi qui es né de nouveau, il y a la puissance de dominer la chair. Alors, dominer sa chair, souvent, c'est l'aspect de dire: voilà, bon, je ne pêche pas. Et c'est vrai que c'est un des aspects de dominer, de crucifier sa chair. C'est un domaine de la sanctification.
voyez, la sanctification, c'est vraiment quelque chose de très important dans notre vie. Je vous rappelle que la sanctification a deux aspects. La séparation du péché. Donc c'est là où tu crucifies ta chair. Où tu dis non aux œuvres de la chair. Tu dis non aux mensonges, non au péché de manière générale, etc. Mais il y a l'autre partie, l'autre aspect de la sanctification, qui est de s'approcher de Dieu. Et là, ta chair, elle doit être crucifiée pour que ton esprit s'exprime. Et c'est ce que Paul ici explique. Il va dire, en effet, ceux qui vivent, verset 5, selon la chair, ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit.
Ngo kuko abaganzwa na kamere mere kumubiri bitwa reka ivyo mubiri kandi abaganzwa n'impuhe mu bitwara reka ivyamuhe mu kumunongo wa gatano.
Avoir les tendances de la chair c'est la mort, avoir celle de l'esprit c'est la vie et la paix.
Ngo kwitwara reka ivyo mubiri bizana urupfu ariko kwitwara reka ivyamuhe mu bizana ubugingo n'amahoro.
Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle en est même incapable.
Indwi kuko kwitwara reka ivyo mubiri gutera kwa nk'Imana kuko kutumvira ivyagezwe n'Imana kandi kudashobora kuvyumvira.
Or ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Paul explique certaines choses ici. Il explique un aspect de notre sanctification. Il dit notre chair qui est là, souvent elle est un obstacle. Un obstacle à notre approche de Dieu. Un obstacle à vivre par l'esprit, notre esprit. Ici c'est pas l'esprit de Dieu, c'est notre esprit. C'est notre esprit dont il est parlé. Le Saint-Esprit habite en toi. Est-ce que ton esprit veut au travers du Saint-Esprit? Ça s'opposera à quoi? À ta chair. Ton esprit, lui, il désire davantage communiquer avec Dieu. Deuxième aspect de la sanctification, c'est approche de Dieu. Ta chair dit, non, j'ai autre chose à faire. Non, j'y arrive pas aujourd'hui. Je sais pas, aujourd'hui j'arrive pas à prier. Ça vous arrive jamais ça? Bien sûr, nous sommes des hommes. Aujourd'hui j'ai pas envie de prier. Ça s'appelle la chair. Il y a des gens qui se demandent ce que c'est que la chair, ben voilà, je l'ai défini la chair. C'est vrai, on définit souvent la chair comme étant, bon voilà, des désirs du péché. C'est absolument. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi ces choses qui nous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. D'entrer dans la présence de Dieu. Et cette chair, il faut apprendre à la soumettre. Elle a des désirs contraires à ceux de notre esprit. Elle empêche la puissance de Dieu de passer, de pouvoir faire les œuvres de Dieu. Si tu n'as pas de puissance dans ta vie de prière, ça veut dire que tu es souvent charnel quand tu pries. C'est-à-dire que tu es dans le naturel. Ça veut dire que tu n'es pas rentré dans ta chambre. Tu
ne
t'es pas mis complètement en dehors de ce qui peut être
distrait.
Et souvent la chair dit non. Je veux pas, attends. Etc. Et plus nous cédons à ça, moins nous entrons dans l'esprit. Plus nous disons non ma chair, tu te tais. Plus vous vous mettrez en colère contre votre chair, plus vous pourrez rentrer dans
l'esprit.
Il y a des fois où il faut se mettre en colère contre sa chair. En disant à ses pensées, pensez, vous vous calmez maintenant. Ça, c'est plus tard. Maintenant, c'est un temps que je veux avec Dieu. Et il y a des moments où on doit faire ça.
Et tu commences à te soumettre.
À
dire à ta chair.
Et
tu pries en langue.
Vous
avez remarqué quand on prie en langue parfois, ça passe tout seul.
Et on
rentre, d'un coup notre esprit.
Le Saint-Esprit
vient. Il y a des moments où on est là, on prie en langue.
Oui,
mais
les gars, on s'engage.
Ça ne passe pas. Pas que notre prière en langue ne passe pas, mais on sent que notre esprit ne s'ouvre pas. Persévère. Dis à ta chair. Persévère. Continue. Persévère dans la prière. Vous savez, persévérer dans la prière, c'est pas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi des chaussures. Seigneur, donne-moi des chaussures. Ça, c'est pas de la persévérance dans la prière, c'est de la stupidité dans la prière. C'est pas ça la persévérance dans la prière. Les gens pensent que persévérer dans la prière, c'est simplement redemander 50 000 fois la même chose. Non, persévérer dans la prière, c'est jusqu'à temps que tu entres complètement dans l'esprit. Et là, crois-moi.
Crois-moi
que quand tout le reste ne t'importe plus, que seulement le Seigneur, là tu es en bonne position.
Et
quand tu commences à ouvrir ta bouche pour demander des choses à Dieu, là ça change. Ça change complètement.
Et
c'est là où tu sors avec tes réponses.
Parce
que tu es pleinement dans la foi. Faire abstraction de tout ce qu'il y a autour.
Et dire
que Dieu est toi. Ça, c'est la prière que j'aime. Ça, c'est vraiment la prière que j'aime. Ça, c'est vraiment la prière qui est puissante.
Ah,
alors là, quand vous êtes dans ce domaine-là, là, je vous garantis, le ciel se manifeste. Vous sortez avec votre réponse. Et quand vous allez à un endroit X, Y ou Z où vous aviez prié pour tel ou tel truc, vous voyez l'accomplissement. Mais la chair. La chair, il faut la crucifier. C'est une dimension de la prière que j'aimerais que nous rencontrions, nous connaissions davantage. Parce que c'est vraiment là où Dieu veut nous amener. Quand la puissance de Dieu commence à descendre, que le peuple de Dieu sait se mettre dans l'esprit. Et prier dans l'esprit et être dirigé par l'esprit et vraiment ne plus s'occuper de ce qui se passe autour, ça c'est puissant. Ça c'est l'église dans laquelle on doit être. Là c'est passionnant, frères et sœurs. La gloire de Dieu qui se
manifeste,
touché par la présence de Dieu,
miracle sur miracle, guérison sur guérison,
avec la présence de Dieu sur eux,
ils
repartent avec leurs réponses
et
ils sont prêts à aller prier à droite et à gauche pour tout le monde et avoir les mêmes résultats. Ça sera une maladie contagieuse qui est bonne.
Amen.
Et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Les frères et sœurs, ces prochains temps, ce sont des moments où on va se consacrer dans la prière. Davantage.
On
va voir la puissance de la prière ce matin. Beaucoup plus que ce qu'on a vu. Une des clés, c'est ça. Moi, je veux voir cette église être puissamment utilisée par Dieu dans la prière. Une des clés du réveil chez Yonggi Cho, ça a été ça. Il avait des gens qui, quand ils avaient un problème, ils étaient capables de se mettre à part
Et tant qu'ils n'avaient pas la réponse,
ils
persévéraient dans la prière jusqu'à temps de voir le résultat. Et ils ont eu des résultats phénoménaux. Ils avaient leur méthode, leur façon de faire, ils avaient ce qu'ils appelaient une montagne de prière, ils allaient dans un endroit spécial, se retirer, tout ça. C'est un autre problème. Dieu n'est pas impressionné par les méthodes. Mais par le cœur des gens. Et si nous avons un cœur comme ça, frères et sœurs, là nous verrons le réveil. Parce que le réveil naît dans la prière. Il naît dans la prière. Il faut se mettre dans l'esprit et refuser sa chair. Refuser sa chair. Ceux qui veulent vivre dans la chair et n'ont pas de puissance dans leur vie spirituelle, ils courent après des modes, ils courent après des musiques, ils courent après tout ce que vous voulez qui peut être à la mode du moment dans le corps de Christ. Mais quand vous voyez les fruits au bout d'un certain nombre d'années, vous voyez des chrétiens bien endormis. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut une église en feu. Dieu veut une église puissante. Par la puissance du Saint-Esprit. Que ces choses se réalisent par le moyen de la prière. Par le moyen de la prière. On va passer un temps à prier. Est-ce qu'on peut avoir un peu de musique? Merci. On va se lever, s'il vous plaît.